le grand jury RTL, Le Figaro, LCI, invité José Manuel Barroso, président de la Commission européenne. Le débat est dirigé par Jean-Michel Apathy.
Bienvenue dans le grand studio d'RTL pour cette nouvelle édition du grand jury. Vous en êtes l'invité, José Manuel Barroso, bonsoir.
Bonsoir.
Vous répondrez aux questions d'Étienne Moujotte du Figaro et de Pierre-Luc Séguillon d'LCI. Le terrorisme a frappé de façon spectaculaire à Bombay, en Inde. Il peut aussi évidemment frapper en Europe. Faut-il prendre des mesures particulières aujourd'hui, après ce qui s'est passé en Inde, ou bien la situation en Europe est-elle ce qu'elle était avant cet attentat, c'est-à-dire une surveillance bien entendu précise, mais pas de menaces nouvelles particulières?
Je crois que les différents services de sécurité avaient déjà pris des mesures. Il y a une politique, disons, de grande surveillance et d'attention. Mais sans doute, les différents services ont pris des mesures supplémentaires lorsqu'il y a une situation comme celle terrible que nous avons vue maintenant en Inde.
Et la Commission européenne est-elle associée à ce type de avez-vous des informations ou bien l'affaire des États et chacun travaille plutôt dans son coin en relation avec les autres services des autres États?
C'est surtout l'affaire des États, mais nous sommes bien sûr tenus au courant. Il y a un commissaire, d'ailleurs c'est le commissaire français, le vice-président Jacques Barrot, qui a la responsabilité des questions qui concernent la justice, la liberté et la sécurité.
Est-ce que, comme Européen, vous pensez que, devant cette persistance, sinon cette recrudescence du terrorisme, il conviendrait de répondre, le cas échéant, favorablement à une demande du président des États-Unis de renforcer la présence militaire en Afghanistan?
Bon, pour le moment, on n'a pas encore parlé avec le nouveau président des États-Unis sur cette question concrète. D'ailleurs, j'ai eu au téléphone récemment avec le président américain et ce n'était pas une des questions dont on a parlé. Mais c'est probable que les Américains vont demander aux Européens un effort plus grand en ce qui concerne l'Afghanistan. À mon avis très personnel, voilà, c'est un domaine qui n'est pas typiquement la compétence de la Commission, mais à mon avis, il faut vraiment qu'on fasse une révision substantielle de la présence, de la stratégie, de l'encadrement en ce qui concerne l'Afghanistan, en pensant aussi à toute la situation régionale. D'ailleurs, les Américains sont en train de faire cette révision et je crois qu'on doit y participer et voir ce qu'on peut faire ensemble parce qu'effectivement, c'est une situation extrêmement critique et il y a des rapports avec d'autres situations terroristes qui sont une menace pour nous tous.
C'est-à-dire, quel est le sens de votre réponse? Ne pas donner automatiquement une suite favorable à une demande d'augmentation des effectifs, mais regarder d'abord la situation?
Je crois qu'on doit parler avec nos partenaires et amis américains sur la meilleure façon. Je peux vous dire que dans un dialogue avec beaucoup des chefs de gouvernement européens, je vois qu'il y a un certain scepticisme. Je dois dire très franchement. Sur l'efficacité de ce qu'on est en train de faire en Afghanistan. Je suis pour qu'on fasse quelque chose de substantiel, mais avec des résultats. Donc il faut parler avec nos amis américains et entre nous tous en Europe pour voir quelle est la meilleure façon d'avoir effectivement une réponse efficace aux menaces qui viennent de l'Afghanistan.
Étienne Moujotte.
Monsieur le Président, la Chine a annulé de manière très brutale un sommet qui était prévu entre la Chine et l'Union européenne, au motif des relations qu'entretiendraient un certain nombre de dirigeants européens avec le Dalai Lama. Cette attitude de la Chine ne vous choque-t-elle pas, à la fois par sa brutalité, mais aussi sur le fond?
Je regrette cette position de la Chine. Nous savons que la Chine est extrêmement susceptible aux questions concernant le Tibet et les rapports avec le Dalai Lama. Mais franchement, nous ne voyons pas là une raison pour cette décision. Et nous espérons qu'il y aura la sagesse de la part de la Chine et aussi de la part européenne de dépasser ce problème. C'est vrai que nous avons sur plusieurs problèmes des perceptions différentes, les Européens et les Chinois. Mais je crois que c'est un rapport très important sur le plan stratégique, dans l'intérêt de la Chine et de l'Europe, et qu'on doit savoir discuter de ces problèmes précisément lors des sommets, et éviter que lorsqu'il y a une différence, que cette différence contamine l'ensemble des rapports, qui est d'ailleurs très important.
Vous voyez que c'est difficile de discuter quand une des parties annule de cette manière.
C'est pourquoi j'espère que ce problème soit dépassé rapidement.
Pékin a donné pour raison de l'annulation de ce sommet la rencontre de Nicolas Sarkozy avec le Dalai Lama en Pologne prochainement. Est-ce que les Européens sont unis sur cette question?
Écoutez, je pense que oui. En fait, il y a eu plusieurs cas où il y a eu des rapports et des rencontres avec Dalai Lama. Les Chinois sont ultra susceptibles, malgré le fait qu'on leur dise à maintes reprises que les contacts avec Dalai Lama ne porte pas un jugement sur la question du Tibet, qu'on reconnaît d'ailleurs la politique d'une Chine, qu'on ne veut pas, mettre en cause la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine, mais que Dalai Lama est une personnalité importante, c'était un prix Nobel de la paix, donc c'est tout à fait naturel que les personnalités politiques européennes puissent rencontrer le Dalai Lama. Donc là, je ne vois pas une différence fondamentale entre les différents dirigeants européens. Moi-même, j'ai reçu Dalai Lama il y a 2 ans à la Commission européenne. D'ailleurs, j'ai invité beaucoup de personnalités religieuses et d'autres pour discuter le dialogue interreligieux, le dialogue culturel. Il était l'invité au siège de la Commission européenne il y a, je crois, 2 ans.
Nous allons faire souffrir votre sens de la diplomatie, José Manuel Barroso, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur de la part de Nicolas Sarkozy d'annoncer, lors d'un discours à l'occasion de la remise d'un prix qui lui était décerné, qu'il verrait le Dalai Lama sans beaucoup de précautions finalement, et qu'il le verrait en Pologne dans des conditions qui n'ont peut-être pas été très bien comprises? Est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur diplomatique d'appréciation de la part de Nicolas Sarkozy?
Ce que je pense, c'est que le président de la République française et tout leader politique européen a le droit de rencontrer qui il veut. Et ça, on ne peut pas accepter qu'une autre puissance, pour les raisons les plus importantes au monde, mette en cause ce droit. Donc là, je ne ferai aucune critique, d'ailleurs au président français, d'ailleurs à mon ami Nicolas Sarkozy, je ne ferai aucune critique. Parce que si nous commençons à accepter le principe que nous ne sommes pas libres de voir qui nous voulons, alors là, c'est effectivement une limitation de la liberté, de la souveraineté des États et même de la liberté individuelle. Moi, je réclame pour moi le droit de fixer mon agenda. Donc je crois que le président de la République française et tous les dirigeants ont bien sûr le même droit.
Y a-t-il des périls sur les contrats? Le report de ce sommet qui devait avoir lieu demain, peut-il entraîner, à votre avis, peut-être avez-vous des informations à ce sujet, des ruptures de contrats de la part de la partie chinoise?
Écoutez, je crois que les Chinois ont voulu envoyer un signe clair à quel point c'est important pour eux ce problème du Tibet. Mais je crois, et toutes les indications que nous avons, et là je peux vous dire les indications que nous ont transmises à nous-mêmes, Commission européenne, ce qu'ils veulent, aller de l'avant avec des rapports avec l'Union européenne, qu'ils donnent une grande valeur aux rapports avec l'Europe. Écoutez, même la Commission, nous avons des excellents rapports. J'ai été à plusieurs reprises en Chine, et ils ont montré à quel point ils valorisaient le rapport constructif que nous avons chinois et européens.
Donc vous espérez qu'en prochain sommet pour avoir lieu avec la Chine.
On va discuter maintenant, Commission européenne, nous allons discuter ça avec nos États membres, voir quelle sera la meilleure façon de dépasser cette difficulté.
Dernier point sur la Chine, avant de passer à la crise. Les autorités européennes, et vous-même je crois, M. Barroso, aviez souhaité que Yeo Weiban, un biochimiste de 59 ans qui avait été accusé d'espionnage et condamné à mort par les autorités chinoises, ne soit pas exécuté. Il l'a été vendredi.
Nous condamnons toutes les exécutions.
Mais vous aviez pris position pour ce chimiste-là, pour diverses raisons, parce qu'il avait de la famille en Autriche, parce que le procès avait paru très scandaleux aux associations humanitaires.
L'Union européenne, par ses instances propres, avait communiqué cette position aux Chinois. Oui.
Et les Chinois n'ont tenu aucun compte. C'est choquant.
Écoutez, ce n'est pas notre politique. Nous sommes, bien sûr, tout d'abord, nous sommes contre toute exécution de mort en Europe, et surtout quand il s'agit de problèmes, de différences d'opinion, de droits de l'homme, nous sommes bien sûr contre ces positions.
Sur la crise, peut-être?
Sur la crise. Alors, parlons du plan de relance que vous avez annoncé le 26 novembre dernier. Vous avez annoncé donc un plan de relance de 200 milliards d'euros. 170 milliards qui sont à la charge des États et 30 milliards répartis entre la Banque européenne d'investissement et la Commission européenne. Sur ces 170 milliards, comment est-ce que vous allez, puisque ça va être présenté au prochain sommet, si je ne me trompe, au prochain Conseil européen, comment est-ce que ça va être réparti entre les différents États européens? Et est-ce que vous prenez en compte ce qui a déjà été fait par ces États?
Bon, tout d'abord, c'est un ordre de grandeur. Il faut dire que ces chiffres ne sont pas précis mathématiquement. Hein. C'est un ordre de grandeur, il nous paraît important, à nous, Commission européenne, c'est notre proposition. D'ailleurs, nous avions déjà dit le 26 octobre, un plan de relance, un plan coordonné de relance. Écoutez, c'est important, parce qu'au début, il y avait certains dirigeants qui disaient qu'il ne fallait pas une relance européenne, que chacun devrait faire son propre effort, et que même l'idée d'un plan de relance n'était pas tellement importante. Voilà, maintenant, on s'est déjà mis d'accord.
Certains le pensent encore, d'ailleurs. Certains, l'Allemagne, par exemple.
Je crois que non.
Mais pour parler de
après, dans le dernier Conseil européen, le Conseil européen informel, on s'est mis d'accord sur le besoin d'une réponse coordonnée. Je suis fier parce que c'est la Commission européenne, le 26 octobre, la première à dire qu'il faut pas seulement regarder la réponse à la crise financière, il faut une réponse économique à la crise financière, il faut un plan coordonné de relance européenne. Maintenant, on discute maintenant les valeurs, les chiffres. Bon, c'est déjà bien quand on discute seulement cela. Ça montre qu'il y a déjà un consensus sur le besoin d'une relance aussi par la demande. Les 170 milliards, c'est notre... disons, calcul initial. D'ailleurs, en cours de route, ça peut être revisé, parce que la vérité, c'est que nous sommes dans une situation économique très, très changeante, et on peut pouvoir faire des adaptations, mais il nous paraît ambitieux et réaliste. Et je crois que les États membres seront en mesure d'arriver à ce chiffre. Je vous rappelle que le président Sarkozy et la chancelière Merkel, dans un article qui a été publié d'ailleurs en France et Le Figaro et en Allemagne, avait évoqué le chiffre de 1%. Nous sommes là dans notre proposition à 1,5%, mais donc 1,2 pour les États membres. Mais nous croyons que notre chiffre est plus réaliste et plus ambitieux aussi. Mais je crois que maintenant, par la coordination des ministres des Finances, on va facilement arriver à ce chiffre.
Mais est-ce que ça signifie que chaque État membre doit arriver à ce 1,2% de son PIB?
Non, pas du tout, parce que les situations sont extrêmement différentes. Nous avons 27 États membres en Europe. Nous avons des pays qui sont en récession. Nous avons des pays qui auront cette année 4% de croissance, comme la Pologne. Mais nous avons la Hongrie qui est sous un programme du Fonds monétaire international, un programme d'aide à la balance des paiements. Donc il faut bien comprendre qu'en Europe, quand on parle de coordination, ça ne veut pas dire uniformisation. Ce sont 27 situations différentes, donc c'est naturel qu'il y ait des réponses différentes en fonction des circonstances différentes.
Mais alors, c'est un simple habillage de ce qui existe déjà?
Non. Pour le moment, la vérité, c'est que les États membres ont annoncé des plans certains, d'autres sont en train de les préparer, mais ils n'ont pas encore commencé à les exécuter. Et tout d'abord, c'est déjà le résultat d'une réflexion conjointe. J'insiste sur ce plan. C'était le 26 octobre que la Commission européenne a annoncé, et après moi-même, je l'ai dit au Conseil européen, il nous faut un plan de réponse économique à la crise économique. Il faut regarder aussi l'économie réelle, pas simplement les aspects financiers.
Pardonnez-moi simplement d'insister, mais par exemple l'Allemagne, 32 milliards d'euros, vous dites que ce n'est pas encore en action, c'est déjà en application?
Pas encore. Ils viennent d'annoncer, ça, nous parlons pour l'année 2009. Ce que nous disons, c'est pour l'année 2009. Et je crois que l'Allemagne, elle, sera au rendez-vous. Je tiens à vous dire, je connais bien le débat, il faut comprendre quelque chose sur l'Allemagne. L'Allemagne, tout d'abord, elle a une cohabitation. Et en France, vous connaissez bien cohabitation. Mmh. Bon. Et d'autre part, l'Allemagne est un système fédéral. C'est un système plus lourd que le système français. Mais l'Allemagne est la plus grande économie européenne. Elle a tout à gagner si on travaille ensemble. Elle a tout à perdre si, par exemple, il y a une récession prolongée en Europe. Donc, je suis confiant que l'Allemagne sera au rendez-vous. J'ai parlé avec Madame Merkel là-dessus. C'est vrai que dans le système décision allemand, les choses vont moins vite parfois que dans d'autres cas, par la structure et par la situation politique. Mais je crois que l'Allemagne sera au rendez-vous. Et je pense que la locomotive allemande continuera à être très importante pour l'économie européenne.
Il n'y a pas que le système de décision tout de même, M. Barroso, parce que le jour, c'était mercredi, hein, vous avez présenté le plan de relance que souhaite la Commission européenne de 100 milliards, Angela Merkel a déclaré ceci: nous ne devrions pas nous laisser entraîner dans une course aux milliards. Déjà, ça n'est pas sympathique. Hein. Il faudrait de temps en temps réfléchir au fait que nous pouvons aussi faire quelque chose sans argent. Donc c'est bien une opposition de fond de Mme Merkel.
Non, il n'y a pas une opposition de fond à notre plan. D'ailleurs, dans la déclaration du porte-parole du gouvernement allemand, ils ont dit d'ailleurs que leurs chiffres n'étaient pas tellement différents des chiffres avancés par la Commission. C'est vrai que notre proposition est plus ambitieuse. J'en ai parlé d'ailleurs avec Mme Merkel. Elle m'a donné des garanties de soutien en ligne générale à cette approche. Mais c'est vrai ce qu'elle dit aussi, que ce n'est pas la dépense simplement qui va résoudre les problèmes. Et ça, je tiens à le dire. Qu'on ne pense pas que c'est en arrosant les problèmes avec l'argent qu'on va trouver des solutions. Il faut faire des investissements, mais les bons investissements. Il faut avoir des investissements ciblés. Il faut avoir des priorités. Ce n'est pas un ordre pour dépenser simplement, ce que nous disons. Et là, bien sûr, ce que Mme Merkel dit rejoint, disons, une orientation, je dirais, traditionnelle de l'Allemagne, qui est traditionnellement plus prudente, tout ce qui touche à la dépense, et pour des raisons qu'on connaît. Il y a même parfois des différences culturelles entre l'Allemagne et la France et d'autres pays par rapport à la dépense. On doit bien comprendre, d'ailleurs c'est important qu'ils le disent, parce qu'effectivement, si on donne l'idée maintenant que c'est seulement en dépensant qu'on va trouver la solution, on ferait une grande erreur. C'est pourquoi notre plan dit oui, allons préparons une réponse à la crise par la relance budgétaire, par la demande, mais ayons un plan bien ciblé, cet investissement que nous considérons intelligent, c'est-à-dire avoir une réponse de court terme, mais qui ne soit pas contradictoire, au contraire, qui puisse renforcer la compétitivité de l'économie européenne à moyen et à long terme.
Alors moi, je suis très sensible au fait que vous êtes pour un plan, vous êtes pour une coordination des plans nationaux, mais je voudrais qu'on entre un peu dans le détail. Il y a un plan français de soutien aux banques par recapitalisation par des prêts de 10,5 milliards d'euros pour les 6 grandes banques françaises. Ce plan a un mois. La Commission l'examine. Et jusqu'à maintenant, la Commission bloque le plan. Nous ne sommes pas les seuls. Je crois que les Autrichiens, les Hongrois et d'autres ont les mêmes problèmes. Comment la Commission peut-elle aussi longtemps bloquer ce plan? Alors que par ailleurs, elle nous dit, il faut aller vite parce qu'il y a le feu dans la maison. Expliquez-moi ça.
Il faut comprendre une chose essentielle. Nous sommes dans un marché intérieur. Nous avons 27 pays. Et nous avons donc besoin de ne pas introduire des distorsions fondamentales dans la concurrence. Parce que si un pays prend des mesures pour ses banques, pour son industrie, contradictoires avec celles que l'autre pays à côté prend, nous aurons un problème terrible en Europe de protectionnisme entre nous-mêmes. Nous aurons la fragmentation, la division de notre marché intérieur. C'est pourquoi il faut être sûr que les mesures que les différents gouvernements prennent sont compatibles.
En un mois, vous aviez le temps d'être sûr. Ça fait un mois que ça dure. Et on attend toujours.
Non, écoutez, normalement, l'examen de ces questions prendrait au moins 4 mois à 5 mois.
Mais il y a nous le feu dans la maison, monsieur le Président.
Mais c'est pourquoi nous avons autorisé les mesures d'émergence, ce qu'on appelle les mesures de sauvetage, mais maintenant nous sommes dans les mesures de restructuration. Mais
ce sont des mesures très urgentes.
Et les banques françaises
sont solides, et on a au moins besoin de cette recapitalisation. Là, on a l'impression, si vous permettez, que vous êtes en train de mettre des PV à des ambulances, là, à la Commission.
Pas du tout. Nous sommes en train de travailler avec une rapidité extraordinaire. D'ailleurs, on a... ce n'était pas à cause de la Commission que les mesures de sauvetage, comme par exemple celles qui ont eu lieu ont été engagées des banques françaises et des banques belges, qui ne s'est pas produite, tout a été autorisé.
Oui, mais
il n'y a pas de blocage. Mais il faut faire un examen, non, parce que sinon, si demain...
Mais si, il y a un blocage. Si vous pouvez dire non, c'est justifié, mais vous ne pouvez pas dire que pour l'instant, c'est pas bloqué.
Il y a l'examen, fait avec toute la rigueur, et c'est essentiel qu'on le fasse.
Ça sera débloqué quand?
On est en train de travailler avec la plus grande urgence, mais je veux expliquer cela à nos téléspectateurs pour qu'ils comprennent pourquoi. C'est extrêmement difficile parce que si on accepte qu'un pays maintenant donne X, beaucoup, des milliards et des milliards d'euros à des banques, et les autres font avec d'autres critères, vous aurez un problème de concurrence déloyale qui peut détruire, beaucoup de banques, et parfois les banques les plus saines, ce qui est même paradoxal, parce que c'était les banques qui n'avaient pas besoin de la capitalisation, qui maintenant voient d'autres recevoir des milliards de l'argent du contribuable sans qu'il y ait un critère homogène. Nous sommes en train de travailler avec la plus grande urgence, avec la plus grande compétence, et c'est une garantie pour les contribuables français
pour les contribuables français qu'on ne va pas autoriser des aides qui ne soient pas compatibles avec les règles de la concurrence.
Permettez-moi de vous dire, avec tout le respect que j'ai pour vous, que vous allez avoir probablement des réunions agitées à Bruxelles, ministre des Finances de l'Eurogroupe, puis l'ECOFIN, les ministres des Finances de l'ensemble. Parce que sur cette position, il y a une très grande majorité de pays qui considèrent que la Commission bloque, empêche, gêne les États d'aller vite alors qu'il faudrait aller très vite.
Il y a beaucoup de pays qui nous disent exactement le contraire. Faites attention, n'autorisez pas cela, et pas seulement des pays. Même en France, il y a des banques qui ont des positions différentes. Parce qu'il faut garantir, la concurrence saine et que l'argent des contribuables n'est pas dépensé contre le marché intérieur.
On va peut-être mettre un peu d'ordre pour ceux qui nous écoutent. Parce que le plan de soutien des banques, par exemple en France, mais aussi en Grande-Bretagne et ailleurs, est déjà un peu ancien. Il doit avoir un mois à peu près. La Commission pourrait remettre en cause, elle estime avoir le droit, la possibilité, de remettre en cause les décisions prises par les États dans leur soutien aux banques.
Nous avons appuyé les mesures exceptionnelles. Maintenant, nous sommes dans une phase de restructuration. Et là, effectivement, c'est pas le droit de la Commission, c'est l'obligation de la Commission de faire respecter le traité de Rome. Nous avons des traités, nous avons des règles. Nous ne pouvons pas dire que cette crise a été créée par que les Américains n'ont pas de règles et nous, en Europe, mettre en cause les règles que nous avons. Nous avons en Europe les règles de la concurrence, des règles d'aide d'État, et il faut respecter les règles.
Par exemple,
si on ne respecte pas les règles, c'est la loi de la jungle. Et ça, ce serait négatif pour toute l'économie européenne.
Vous considérez que dans cette affaire, le gouvernement français, en l'occurrence, avec ce plan de 10 milliards et demi d'euros, ne respecte pas les règles.
Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je veux... Non, je n'ai pas dit ça. Au contraire, nous avons salué, en général. En plus, écoutez, nous avons encouragé ces mesures.
Vous bloquez.
Non. Maintenant, il faut définir un critère homogène, clair, pour toute l'Europe. Et c'est cela que nous sommes en train de voir. Parce qu'effectivement, il y a des critères différents. Et il y a des pays qui sont en train de définir des aides qui sont en contradiction avec la politique d'autres pays. Et ça, je crois que ce ne serait pas dans l'intérêt ni de la France, ni de l'Europe, si on avait, disons, cette fragmentation, cette balkanisation de la réponse à la crise financière.
Je reviens alors au plan de relance économique, cette fois-ci, celui que vous avez présenté. La part qui revient à la Commission européenne, qui est de 14,4 ou 5 milliards d'euros. Il n'y a aucun élément nouveau en réalité, parce que dans les fonds qui vont être insufflés dans l'économie, ce ne sont que des redéploiements ou d'utilisation de fonds non utilisés.
La Commission n'a pas une machine à produire des billets. Hein. Nous travaillons avec le budget qui a été approuvé par les États membres. Et ce que nous avons dit, c'est on va dépenser tout le budget, ce qui est d'ailleurs, si les États membres l'acceptent, une nouveauté. Par exemple, cette année, grosso modo, ça, il s'agit de 5 milliards d'euros, mais nous n'avons pas... Le budget que nous avons, c'est le budget que les États membres ont mis à notre disposition. Et franchement, je ne vois pas de la part des États membres l'ouverture à qu'on change fondamentalement ce budget. Ce que nous sommes en train de proposer, oui, c'est des choses très importantes. C'est par exemple les fonds structurels qui sont environ 370 milliards d'euros. Au lieu de les dépenser d'une façon, disons, homogène au cours des dernières années, d'anticiper dans la mesure du possible l'année prochaine et les deux prochaines années pour qu'on puisse concentrer pour stimuler la demande dans l'avenir immédiat. Mais j'insiste, je n'ai pas là de l'argent qui ne vient de nulle part. Donc nous faisons le maximum avec les fonds disponibles et je crois que, et nous demandons d'ailleurs aux États membres d'ajouter quelques fonds pour leurs efforts nationaux.
Mais alors précisément, est-ce que cette situation de crise ne pose pas le problème du budget européen et ne vous amène pas à reposer aux différents États membres problème du budget et aussi peut-être une clause qui est particulière à la Commission, c'est qu'elle n'a pas l'habilité pour emprunter.
Non, on n'a pas, c'est vrai qu'on n'a pas l'habilité pour emprunter, mais je veux vous dire que cette question a été posée par la Commission, pas maintenant. Déjà, il y a 3-4 ans, quand on a discuté les dernières perspectives financières, nous disions que ce budget n'était pas suffisant. Et il y a eu quelques pays, dont la France, qui ont dit le maximum 1%. C'est ça, c'était le célèbre club de 1%. Et nous avons fait le maximum. D'ailleurs, à l'époque, j'ai eu des discussions très, très, très difficiles avec mon ami Tony Blair, parce que c'était pendant la présidence britannique, en disant, écoutez, il faut plus de flexibilité dans le budget. Donc, quand on va voir l'avenir du budget communautaire, ce sera pour la période après 2013, mais l'année prochaine, nous allons présenter ce qu'on appelle la révision des perspectives financières en termes de lignes générales. général, et sans doute que nous allons évoquer cette question.
Une question, Monsieur le Président, sur un point très précis, la baisse de la TVA. Les Britanniques ont décidé de baisser la TVA. Apparemment, ils ne sont pas suivis par d'autres pays européens. Quelle est votre position? Est-ce que c'est une bonne mesure pour relancer la croissance que de baisser la TVA, éventuellement dans tous les pays européens?
Ça dépend. Dans tous les pays européens, nous sommes contre. Nous avons refusé cette idée parce que, écoutez, ce serait vraiment incroyable des pays qui sont maintenant sous des programmes du FMI qui commencent à réduire les impôts. Non. Mais nous avons proposé, d'ailleurs, la réduction de la TVA pour certains produits verts. Nous avons proposé, d'ailleurs, c'est une proposition qui avait déjà été faite, espérons que les blocages disparaissent, la réduction de la TVA pour les services très intensifs en travail. D'ailleurs, c'est la position française. La France soutient beaucoup cela. Malheureusement, il y a des pays qui ne soutiennent pas cette vision. Et nous sommes pour la possibilité que certains pays puissent avoir des réductions temporaires de la TVA. Personnellement, je pense que c'est bien plus efficace de soutenir directement ceux qui ont le moins de revenus. Par exemple, s'il y a le chômage qui augmente, on peut prolonger les indemnités de chômage ou augmenter temporairement les indemnités de chômage. Pourquoi? Parce que là, c'est une aide plus intelligente parce que avec une seule pierre, vous avez deux coups, car vous soutenez socialement ceux qui ont plus besoin et en même temps, vous relancez la demande. Parce que si vous aidez ceux qui ont moins de revenus, c'est sûr que ces personnes-là doivent dépenser parce qu'elles ont besoin de dépenser dans cette situation.
Le président de la République française présentera son plan de relance jeudi. Et on n'a pas d'éléments précis, mais il est possible que sur l'automobile ou bien la construction, les autorités françaises souhaitent baisser de manière importante la TVA. Cela vous paraîtrait, c'est-à-dire passer par exemple de 19,6 à 5,5. Cela vous paraîtrait-il être potentiellement une rupture des règles d'égalité que vous évoquiez tout à l'heure entre les pays?
Je ne peux pas me prononcer sur quelque chose que je n'ai pas encore vu. Ce que je peux vous dire, c'est que nous pensons que par la fiscalité, les États membres peuvent agir en matière automobile. Par exemple, limiter l'impôt pour la circulation pour les voitures plus propres. Par exemple, donner de la prime à la casse, la destruction, l'élimination des voitures qui sont les plus polluantes, qui ont déjà une certaine période, serait une façon d'ailleurs de promouvoir la consommation de nouvelles voitures, en principe plus efficaces d'un point de vue énergétique. Donc il y a plusieurs mesures.
Possible.
Ce que nous proposons...
Est-ce que vous ne verriez peut-être pas d'un bon oeil, c'est la baisse de la TVA pour vendre des voitures, pour stimuler...
Les voitures, ça ne me paraît pas très intelligent en principe, parce qu'alors là, vous êtes en train de stimuler la vente, par exemple, des voitures qu'on veut précisément...
Écarter du marché.
C'est pourquoi nous disons que ces mesures doivent être ciblées et nous devons prendre les mesures intelligentes, c'est-à-dire des mesures qui répondent au court terme, mais ayant en vue le moyen et long terme, en termes d'efficacité énergétique, en termes de transition pour une économie en plus avec plus faible teneur en carbone.
Mais est-ce que ce n'est pas de mettre en position de faiblesse, par exemple, vis-à-vis de l'industrie automobile américaine? Les Américains, eux, ils mettent 25 milliards. Ils se préoccupent du court terme,
les
pas
Américains
forcément du long terme.
N'ont pas encore pris cette mesure, c'est en discussion. À mon avis, ce n'est pas évident ce qu'ils vont faire. En tout cas, nous serons très attentifs, parce que comme ils ont annoncé, c'est absolument contraire aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. De notre première analyse, ce qu'ils ont annoncé, parce que pour le moment, ce n'est pas évident. Il y a des grandes oppositions à ce plan d'aide annoncé par certains au Congrès.
Mais vous pourriez, par exemple, la communauté européenne pourrait tenter de faire obstacle à ce plan devant des instances internationales
bien sûr,
si les Américains le décident.
S'ils sont des mesures contre les règles internationales du commerce, on devra poser la question dans les instances appropriées. Et là, il y a vraiment un risque. D'accord. Parce que, remarquez, si les Américains commencent à soutenir leur industrie, si chacun de nos pays en Europe commence à soutenir son industrie, vous avez le problème du protectionnisme qui n'est pas dans l'intérêt de l'Europe, qui est le plus grand exportateur. Nous sommes ensemble le plus grand exportateur au monde. Donc nous avons tout à fait l'intérêt de soutenir bien sûr les industries, mais de le faire d'une façon compatible avec les règles internationales du commerce.
Nous allons marquer une pause dans ce grand jury, écouter les informations et nous nous retrouvons tout de suite après.